On est de retour dans Dupont le matin et on va aller rejoindre notre chroniqueur judiciaire. Elle est chroniqueure judiciaire au journal Le Soleil, Isabelle Mathieu. Bonjour, bon matin Isabelle.
Oui, salut tout le monde.
Hey, là, on se voit en plus, nous autres, là, parce qu'on
s'est... On est tellement énervés.
Ah oui, oui, hey, oui, c'est la première fois qu'on fait ça de cette façon-là.
Ça vient d'arriver, Internet, hein?
Non, mais de l'utiliser de même. Moi, mais là, je travaille. On veut rester jeune, rester technologique. Mm. Fait que là, on se parle en même temps qu'on se voit.
Petit conseil, quand tu vas te brancher la prochaine fois avec Isa, là, attends pas qu'on reçoit en tour de table.
OK, ouais, parce qu'on entend, hein, mais c'est bien correct. Ah, hey, ouais. Isabelle, ça bouge. Oui. Dans ton domaine, premier procès devant jury, évidemment, depuis la crise sanitaire, ça a avorté samedi soir. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben oui, c'est celui dont je vous ai parlé la dernière fois, là, puis que j'étais bien prudente, puis que je voulais pas vous dire grand-chose parce que c'était devant jury. Mais là, finalement, ça a fait pouet-pouet. Samedi, le jury a été dissous parce qu'ils ont jamais réussi à s'entendre. Bon, puis là, en toute transparence, moi, samedi soir, j'étais pas au palais de justice, j'étais à mon camping avec mes enfants. Donc, je me suis fait raconter toute l'histoire par les avocats lundi, parce que c'est quand même assez rare que ça arrive, ce genre de dissolution de jury-là. Fait que, donc, je vous raconte. Là, Stéphane, je te vois plus. Je veux juste te préciser, là. Donc, je viens de te perdre en visuel. Mais bref, le procès avait été très court. Hamza Mbaresh est accusé d'agression sexuelle sur une amie de sa blonde. Et le procès, ça a duré comme 2-3 jours de preuves. Ensuite, les directives du juge. Le jeudi soir, les jurés tombent en délibération. Dès le lendemain, là, il commençait à poser des questions. C'est quoi le doute raisonnable? On peut-tu réentendre la docteure qui l'a examiné, la plaignante?
Eh bien, bon, ça, mais là, à chaque fois qu'il y a des questions là, comme ça, faut ramener tout le monde?
Exactement. On ramène tout le monde dans la salle. Là. Les jurés reviennent dans la salle. Les avocats, l'accusé est là. Et là, tout le monde entend la question et tout le monde entend la réponse, évidemment, que le juge
donne. Il y a eu combien de va-et-vient comme ça?
Je pense qu'il y en a eu deux vendredi.
Mais plusieurs questions.
Ensuite, c'est ça. Mais le vendredi soir, là, les jurés ont dit au juge Richard Grenier, ça va pas bien. Qu'est-ce qui arrive si jamais on s'entend pas? Tu sais, ça commençait à sentir mauvais un peu, à sentir l'impasse. Et là, le juge, je te rappelle que ça fait 24 heures là, qu'il délibère. Là, le juge, il a fait ce qu'on appelle une exhortation. Ça, dans le fond, c'est le terme un peu savant pour qu'ils disent au jury, là, continuez, vous êtes capables, vous êtes bons, continuez vos discussions, gardez l'esprit ouvert et tout ça. Donc, ça reprend le samedi, mais le samedi à 5 heures, ils ont demandé à revenir et là, ils ont dit, c'est impossible, on n'en viendra jamais à un verdict unanime, hein, ce qui est ce qu'on demande à un jury. Donc, le juge a dit, on a dissous le jury.
Oui, mais moi, j'aurais demandé, OK, mais pourquoi vous êtes... Hey, là, ça faisait pas longtemps.
Moi aussi, c'est le délai qui me rendait un peu mal à l'aise. Parce que c'est pas la première fois là qu'on voit ça, des impasses là dans des jurys. Regarde, dans Lac-Mégantic, je sais pas si vous vous rappelez, ça a pris 9 jours de délibération, l'histoire des employés de la compagnie de chemin de fer qui étaient accusés de négligence criminelle. Ben après 6 jours, là les jurés ont dit on est dans l'impasse, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, le juge leur a ordonné des directives. Puis finalement, après neuf jours, ils ont eu un verdict. Ils ont acquitté les employés de la compagnie. Puis j'en ai retrouvé un autre aussi, parce que là, je me suis mis à chercher, voyons, quand est-ce que ça arrive, ces impasses-là. Puis dans un procès de Norbourg, hein, l'histoire de Vincent Lacroix, il y avait un co-accusé qui s'appelait Rémi Deschambault. Puis il y a eu une impasse. Elle avait duré, c'est après 16 jours. Puis eux autres aussi, ça avait été dissous, effectivement. Mais
faut dire aux gens, là, que quand tu dis ça, mettons 16 jours, t'as trouvé même plus long que 16 jours?
Oui. Les meilleurs, là, le record à battre, là, c'est les écrevisses. C'est la gang là, qui s'était évadée d'Orsainville. Yves Denis et Denis Lefebvre, deux des accusés, avaient aussi un procès à Montréal et pour des histoires de meurtre en Abitibi. Et ça a pris 28 jours de délibération. Au printemps 2019. Et après 28 jours, ils ont été déclarés coupables. Mais 28 jours, c'est vraiment long, là.
Et autour de ces journées-là, là, c'est hot parce que là, c'est, pas de contact avec la famille. Les contacts avec l'extérieur sont très, 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 très restreints, hein.
sont supposés là d'être coupés complètement, pas de médias, pas de cellulaire. Là, j'ose imaginer que pour 28 jours, ça se peut pas qu'ils n'ont pas eu de contact avec leurs proches, au moins dire un petit bonjour, puis on parle pas de la cause, évidemment, là. Mais ça, 28 jours, bref, je trouvais ça très long. Fait que tout ça pour dire, longue parenthèse, que oui, je trouvais ça court, 2 jours seulement, puis on dissout le jury, parce que ça a quand même des grosses conséquences, là, pour tout le monde, pour l'accusé, qui est encore dans le néant, là, qui est pas acquitté, qui est pas condamné, pour la plaignante, qui va devoir tout recommencer à témoigner quand il va avoir un deuxième procès qui va être fixé. Mais ce qu'on va expliquer, c'est que dans ce type de procès-là, d'agression sexuelle, c'est « he says, she says ». Hein? C'est vraiment la parole de l'un contre la parole de l'autre. Fait que t'en arrives plus vite à une impasse. Fait que c'est peut-être pas surprenant qu'après 2 jours, il se rendait compte qu'il ne serait pas capable de se rallier à un verdict.
Mais toi, je te demanderai pas de trancher, mais tu as entendu les versions des deux là, dans ce procès-là?
Pas tout à fait. Je pourrais pas tout m'avancer parce que c'était pas un procès assez marquant, je te dirais, pour qu'on le suive, nous autres. Dans le fond, il est arrivé plein d'affaires, mais finalement, on n'a pas suivi le cœur tant que ça de la chose. Fait que on me dit que l'accusé a bien témoigné, qu'il était crédible, la plaignante aussi. Fait que tu sais, ça devait pas être évident. Puis bon, regarde, on saura jamais. Est-ce que les gens étaient juste tannés? On était samedi soir. Des fois, il y a de l'humain qui vient jouer là-dedans. Les gens sont pas tous contents d'être jurés. Donc, il y en a que tu sais, ça peut venir influencer leur travail.
Je connais pas toutes les règles, là, mais c'est là que je me dis, au bien de la justice, le juge devrait avoir un peu je sais pas, la juridiction de leur dire écoutez, vous voulez pas vous entendre, là? Vous allez rester là, vous allez essayer de vous entendre pareil. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que là, c'est ça, si c'est samedi soir, puis il y en a qui veulent sortir ou qui sont à je sais pas, là, me semble que c'est trop court et trop rapide pour qu'on accepte que les démarches qu'on vient de faire, parce qu'il y en a peut-être juste deux. Il y a peut-être juste un ou deux individus dans le groupe de 12 qui s'entendent pas, là, puis qui s'aiment pas à face. Oui. Mais là, à un moment donné, t'as un travail de citoyen à faire qui est fort important.
Mais je te dirais que la réflexion là que j'entends autour de moi au palais, c'est que surtout que les gens se demandent, dans ce type de cause-là, est-ce que c'est vraiment la place de les faire devant jury? T'sais, est-ce que ça ne devrait pas être un juge seul qui devrait toujours entendre ces causes-là, ou est-ce qu'il faut juger de la crédibilité de quelqu'un et tout ça? Fait que non, le débat n'est pas fini.
Mais ça, c'est le choix de l'accusé qui va devant jury.
Oui, exactement, mais on lui offre ce choix-là. Le législateur pourrait modifier des choses pour que, justement, ce type de cause-là n'ait plus devant jury.
OK. Donc, c'est quand même étonnant, mais ça se passait ici dans nos murs à Québec. Maintenant, tu veux me parler de la justice numérique, parce que la justice à distance, un peu comme on le fait ce matin parce qu'on réussit à se voir, ça aussi, ça donne des moments très particuliers. Puis tu en as quelques-uns à nous raconter.
Ben oui, puis j'avais le goût de t'en parler parce que, tu sais, au début, on était bien enthousiaste, hein, au printemps, on était comme « Yes, on est capable de continuer à faire de la justice, nanana ». Mais là, j'ai senti que l'enthousiasme des troupes, des juges et des avocats et tout ça, ça s'émousse beaucoup. Ça l'a paru à la rentrée judiciaire. Tu sais, la rentrée judiciaire, c'est une espèce de cérémonie formelle là, que le Barreau de Québec organise à chaque année. Puis là, c'est pour dire à tout le monde, ben bonne année judiciaire, puis on parle des défis de la justice et tout ça. Évidemment, ça s'est pas fait en personne au palais cette année, ça s'est fait via le web. Et les trois juges en chef du Québec ont parlé. Et là, ça donne ces trois femmes présentement là pour la Cour d'appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec. Et les trois ont un peu dit, dans le fond, je l'ai résumé en disant, la justice virtuelle, c'est bien, la justice en vrai, c'est mieux. Parce que ils sont un peu tannés. On sent là que ça vient jouer sur beaucoup sur le décorum, notamment. Ça vient un peu perturber, je te dirais, l'espèce de sérénité qui entoure les débats, qui sont quand même assez sérieux. Parce que, je vais te donner un exemple. Il y avait une conférence de gestion à laquelle j'ai assisté via le web il y a quelques semaines. L'accusé, c'est une affaire d'harcèlement, contexte conjugal, de quoi d'assez sérieux quand même. Là. La conférence préparatoire, c'est une étape quand même assez importante. Où est-ce que tu prépares ton procès? Les avocats discutent. Bon, voici les preuves qu'on va... La couronne dit ce qu'elle veut présenter, combien de temps ça va prendre, combien de témoins. L'accusé est là, assiste à cette étape-là. Mais là, mon accusé de cette journée-là, il était dans son char. Il s'en allait je ne sais pas où et il avait mis son téléphone sur le tableau de bord pour pouvoir être relié en vidéo. Et là, la juge Joanne Roy, qui voit ça, s'étonne, hein? Elle commence à être très polie, elle s'étonne d'abord. Et là, l'accusé dit, ah ben là, excusez, prenez-le pas personnel, madame la juge, je suis sur l'autoroute, ça se peut que des fois, je vous regarderai pas. Fait que là, la juge...
OK, il est même pas immobilisé, il est en déplacement.
Non, il est en déplacement sur l'autoroute. Wow. Et là, la juge a dit, ben... Je vais le prendre personnel. Alors, vous êtes à la cour, hein? Donc, il y a un décorum. Fait que là, il y a comme un gros silence. L'accusé dit, bon, ben, je vais sortir à la prochaine sortie. Puis là, c'est le gros silence malaisant, le temps qu'il se rende à la fameuse sortie, qu'on entend tic, tic, tic. Puis là, il est en train de sortir et il a fini par se stationner pour pouvoir, pour que l'audience puisse commencer. Mais tout ça pour dire que les gens, à cause du virtuel, à cause de la distance, c'est un peu moins sérieux. Tu sais, on a vu des gens plaider coupables à des infractions plus mineures, mais tu sais, ils sont sur leur lieu de travail, dans leur commerce, puis là, ils voient qu'ils font un signe à un employé. Tu sais, c'est pas top, là, mettons, le décorum.
Mais est-ce qu'on est à veille de mettre un frein à tout ça ou c'est là pour rester? Tu penses, moi, que je puisse pas aller saîner puis me promener d'une salle à l'autre, je comprends. Mais les accusés, ouais, saîner, les accusés, eux autres, il me semble que l'obligation d'être sur place, c'est essentiel pour la justice.
Ben oui, c'est sûr que c'est quand même là, c'est parce que là on vient retomber en deuxième vague. Fait que ouais. Je m'avancerai pas trop. Je suis pas sûr qu'ils vont ramener du monde. Ben, je pense que c'est peut-être aux gens à se discipliner un peu, puis aux avocats à les tenir serrés. Parce que là, c'est ça. Normalement, c'est quelque chose de sérieux là, quand t'es devant la justice. Puis tu sais, l'aspect les détenus aussi, les gens qui sont détenus ne sont plus amenés au palais de justice évidemment. Donc tout se fait via les caméras. Et des fois, quand ils étaient en isolement, là, quand ils sont en état de quarantaine, quand ils changeaient de prison. On les voyait à travers une petite fenêtre là, filmée par un iPad. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se perdre au niveau qualité du contact. Et bon, ça, c'est juste comique, mais aussi, à un moment donné, s'il faut qu'on fasse des procès en virtuel, ben il faut pas que la technologie vienne nuire à l'analyse, la crédibilité des gens et tout ça. Tu sais, ça a quand même des grosses conséquences. Fait que moi, je trouvais ça important je trouvais ça le fun que les gens fassent la réflexion. Genre là, c'est bien beau la technologie, là, le ministère de la Justice est bien proactif de ce temps-ci. Je souligne de ce temps-ci et ouvre des salles virtuelles et s'arrange pour que ça marche. Mais il faut pas que ça se fasse au détriment de la qualité. Mais oui, puis une autre anecdote que je trouvais très drôle, parce que les avocats ont beaucoup de mal à rencontrer leurs clients présentement à cause de la pandémie. Fait tout se fait par courriel, par téléphone, comme la plupart du temps. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est ça, c'est ça crée des malaises. Il y avait une jeune avocate qui était en salle d'audience, au 215, dans une salle à volume. Puis là, je la voyais via l'écran. Elle regardait tout le temps vers la porte de la salle d'audience, un peu nerveuse et tout ça.
Elle était en train de se tourner, là.
C'est ça, mais elle n'est pas supposée faire ça, parce que quand tu es debout devant le juge, normalement, tu regardes le juge, tu te parles. Mais là, elle regardait, puis ça, puis ça allait être son tour. Puis elle a dit au juge, René de Sablonnière, elle lui dit, ben là, je suis désolée, j'ai jamais rencontré mon client, fait que je surveille pour les gens qui rentrent, pour essayer de le retrouver, tout ça. Fait que là, quand le gars finit par rentrer, le juge de la Sablonnière, lui, il rit dans sa barbe, puis il dit, bon, alors, bonjour, monsieur, je vous présente votre avocate. Et tout ça, fait que là, il faisait les introductions, parce que c'est comme ça, là, les gens ont beaucoup, beaucoup moins de contact entre eux. Fait que ça fait beaucoup de petits moments comme ça.
Mais pour revenir, mettons, à la première anecdote, là, le gars qui est en déplacement,
oui.
J'ai envie de blâmer son avocat un peu, parce que si vous êtes déjà allé au palais de justice, puis je me souviens, dans certaines causes qui touchaient mon travail, t'sais, une des premières affaires, il nous disait, là, arrive pas là habillé comme la chienne à Jacques, là, t'sais, arrange-toi, puis t'sais, essaye d'avoir de l'allure un petit peu en te présentant. Donc, il y avait un décorum très respectueux face à cette institution-là. Et là, là, on va plus loin que ça. Il est habillé n'importe comment, il est dans son short, en déplacement, fait que c'est quasiment secondaire. Il était accusé de quoi, ce gars-là?
Là, j'hésite entre harcèlement dans un contexte conjugal ou violence conjugale. Je suis pas certaine, okay, là, mais je me rappelle de ce détail-là. Mais c'est ça, c'est que les. Moi, effectivement, c'est aux avocats à dire à leurs clients, là, à telle heure, il faut que tu sois, parce que c'est fixé d'avance. Là, il s'est pas fait prendre sur le fly, le gars. Là, à moins que, j'ai pas vu dans l'auto, là, mais à moins qu'il y avait sa blonde qui s'en allait accoucher à l'hôpital, là. Là, je pourrais dire, OK, fine, continue. Mais sinon, il aurait pu s'arrêter une demi-heure là, dans un stationnement.
OK. Hey, on termine avec quelque chose de très, très gros. Puis on va y revenir d'ailleurs plus tard dans les prochains jours. C'est cette histoire autour du Mont Diouville. Puis oui. C'était une petite balloune. Je sais pas comment appeler ça. Mais là, ça a grossi. Et c'est impressionnant ce qu'on entend autour de cette histoire-là maintenant.
Ah, oh, impressionnant, puis triste, puis troublant, là. Oui, au départ, effectivement, il y avait juste comme quelques anciens pensionnaires là, de cet orphelinat-là, là, qui avaient intenté un recours collectif il y a 2 ans.
C'était où, mais ça, exactement?
C'est sur Bourg-Royal, dans l'ancien Giffard, peu comme dans les hauteurs, là. C'est un gros bâtiment. Maintenant, c'est des bureaux du centre jeunesse là, qui sont installés là. C'est ouvert depuis 1925. Et d'ailleurs,
c'était des religieux. Rui, tu connaissais ça?
Oui.
Fait que tu n'as pas été pensionnaire là?
Non.
OK. Donc, c'est des religieux, religieuses qui menaient ça? Mm-hmm.
C'était les Sœurs de la Charité de Québec qui l'ont eu, ils l'ont ouvert en 1925 et qui ont cédé la gestion en 1996. Au CIUS de la capitale nationale qui a installé là des centres jeunesse là. Et là, c'est ça, c'est que au mois d'août, ça a été autorisé. Après 2 ans, là, c'est toujours très long ces procédures-là, puis on n'est vraiment pas rendu au procès. Mais ça a été autorisé. À ce moment-là, là, dans le débat de l'autorisation, on parlait de 280 victimes potentielles, là, des petits garçons, des petites filles, là, 0-17 ans, mettons, là, qui ont été là durant les décennies entre les années 30 et 90. Et là, maintenant, là, quand j'ai refait un suivi, un mois et demi plus tard, le téléphone avait tellement sonné chez le bureau d'avocats que si Henri Saint-Hilaire à Québec là, qui s'occupe de ça, ils sont rendus à 450 plaignants d'un petit peu partout au Québec. Et évidemment, le nombre d'agresseurs potentiels est aussi suivi, hein, parce que plus t'as de gens qui dénoncent, plus t'as de noms qui sortent ou de situations qui sortent, parce qu'on n'a pas toujours les noms. On est rendu à 95 agresseurs potentiels, dont 67 religieuses.
OK, mais c'est-tu les gens qui sont encore en vie, ça, ou il y a des gens...
Non, pas tous, évidemment. C'est ça, les agresseurs, il y en a beaucoup qui sont décédés. Mais de toute façon, c'est pas eux qui sont poursuivis, là. C'est vraiment la congrégation et le CIUS là, qui a pris la relève. Puis c'est ça. Puis là, les gens se dénoncent de plus en plus. On en apprend de plus en plus là, de détails sur les types d'abus physiques, psychologiques et sexuels aussi. Fait que c'est ça, c'est vraiment là, c'est très rare que je fais ça, mais c'est un texte où est-ce que j'ai écrit un avertissement. Là. J'ai dit aux gens. Ça a été dur à écrire, ces paragraphes-là. Ça va être dur à lire pour plusieurs lecteurs. Là, je disais à Ludovic, mon chef de pupitre, j'ai dit, on met tout ça en caractère gras. Il dit, ouais, on n'ira peut-être pas jusque-là, là. On va laisser le même caractère que d'habitude dans le soleil.
Ray, t'as pris le temps samedi de le lire parce que tu m'en as parlé lundi, lundi matin, puis tu me disais que c'était tough, puis c'est sérieux, les accusations qu'il y a là-dedans.
Je suis certain que je connais des gens qui sont allés au Mont Diouville.
Qui ont été victimes, peut-être, de ça.
Convaincu.
Là, la seule affaire, moi, je veux être sûr de bien comprendre. Là, c'est un recours collectif, donc c'est de l'argent au bout. On cherche pas des condamnations.
Oui, tout à fait.
Mais
non,
y a-tu eu des condamnations déjà?
Il y en a eu une. Il y a eu un ancien éducateur laïque, qui était donc pas un religieux, là, John Anthony O'Reilly, qui a été condamné pour des voies de fait sur 5 ou 6 garçons. Là. Okay. Ça remonte aux années 2010. Il y avait eu plus qu'un an de prison, là, j'ai un petit blanc sur la peine, mais il y en a eu un seul là, qui a été poursuivi au criminel, parce que là, on est vraiment, comme tu disais, strictement en matière civile, et on parle donc de millions de dollars qui sont réclamés en dommages punitifs, puis parce qu'on réclame des dommages punitifs, là, parce que les plaignants évaluent que la congrégation a fermé les yeux, a pas pris les mesures, elle savait qu'il y avait des agressions qui se déroulaient au Mondiouville et elle a rien fait pour les arrêter, pire, elle les a cachées. Donc c'est pour ça, ça c'est, et encore une fois, ce sont leurs allégations, c'est pour ça qu'ils réclament des dommages punitifs. En plus des dommages, comme par exemple le requérant Denis Leclerc, il réclame 500 000 $ en dommages pour lui parce que sa vie a pris une tournure
plus-value
dramatique après les abus et tout ça. Donc, il garde des lourdes séquelles de
ça. Les plaignants, ça peut aller. Le nombre d'années entre les plaignants, il doit être assez grand.
C'est sur une grande période.
C'est ça, exactement. Dans la procédure, là, les exemples dont je parlais, il y en avait des années 60, des années 70, des années 80. Donc, c'est pas des gens qui ont été en même temps au Mondiouville, qui étaient placés parce que il y avait des troubles dans leur famille ou il y avait commis des de la délinquance et tout ça. Donc c'est pas des gens. Il y en a qui se connaissent entre eux, mais il y en a d'autres que non. Puis là, depuis que ça a été publié samedi, j'ai des gens qui m'écrivent, des avocats, tout ça, qui me racontent des histoires de leurs anciens clients. Hein, il y a beaucoup de gens du Mondiouville qui sont devenus des criminels, malheureusement, certains qui se sont suicidés, tout ça. Fait que, oui, c'est ça. On est vraiment dans le stock éveillé là, qui s'en vient, mais ça va être à suivre.
Et là, ça doit être des montants d'argent qui vont être très impressionnants, mais est-ce qu'on va vérifier s'ils n'ont pas une scène, cette congrégation-là, s'ils n'ont pas d'argent de côté ou ils n'ont rien? C'est quoi, ça va?
Je vois tout ça encore.
Ah ouais, OK. Mais
est-ce que pas des congrégations qui n'ont plus d'argent? Là? En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Là. Quand j'ai couvert le recours collectif sur les rédemptoristes, il y en avait des millions de dollars. Il fallait juste les trouver, là. C'est ça.
Bon, ben, hey, merci, Isabelle, de ces trois sujets. C'est fort intéressant. Puis là, on se voit, là. Il me reste. Là, je t'entendais un petit peu avec mon iPad, là. C'était ça qui gossait, là. Je sais pas comment faire.
Okay.
C'est moi qui vais trouver le plus facile.
Tu fermer le son?
C'est ça. Ouais, okay. Je sais pas comment. Fait que je suis un épais. Fait que. Hey, merci beaucoup, Isabelle. Puis on se reparle dans deux semaines.
Ça me fait plaisir. Bonne journée, bye.
Pourquoi vous riez? Vous
avez été gêné. T'es gêné de dire oui, là, mais.
Ouais, c'est ça. Mais non, mais.
Je suis un épais.
La mode des pensions, des pensionnaires, là, ça a été ça. Les années 60, 70, mon père a été pensionnaire. Puis c'était pas mal comme ça, là.
Mais est-ce que. Moi, mon gros questionnement là-dessus, là, c'est de savoir. Moi, je suis allé au Collège de Lévis, là. Ouais. Puis, tu sais, au Collège de Lévis, il y avait des sanctions physiques.
Oui.
Tu sais, tu pouvais avoir une claque en arrière de la tête. Mm-hmm. Puis là, moi, ça fait pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Je dis pas que j'en ai vu, là, ouais. Mais ça arrivait. Tu sais, ouais. Un prof qui te serrait un bras ou. Mais à cette époque-là, je dis pas que c'était permis, mais c'était toléré.
Mais c'est pas de ça dont on parle.
On va plus loin que ça.
Dans l'article, il y a des exemples là, qui sont racontés. Là, c'est des gestes à caractère sexuel. Là.
OK, ouais, ça c'est absolument extrêmement grave. Ouais. Fait que mais ça va être de trancher dans tout ça, puis de voir également.
Te souviens-tu, il y en avait eu un dans les Maritimes, un recours collectif. C'était Mount Cashel, je pense, ça s'appelle.
Oui.
Et ça me fait penser à ça.
Ça ressemble à ça.
Ça a été long, ça. Ça a été très long, ce Mount Cashel.
Puis toi, ça frappe ton imaginaire parce que tu passais en avant souvent. Ben toi, oui. Tu sais exactement.
Je suis né là à Giffard.
C'est ça. Fait que t'étais droit à côté, mm-hmm. Puis pendant ce temps-là, toi, t'étais d'une famille très cool, puis là, il y a du monde qui faisait abuser d'eux autres.
Mais je joue avec des gars au golf, là, qui sont rendus dans les 50, 60 ans, puis sont allés en pensionnaire, là.
OK.
C'était comme ça, pareil.
Ben oui, juste...
C'est la génération avant nous, là.
Ben oui, c'est assez particulier,
dans
là.
Dans toutes les générations, toutes les cultures, on a vu les pensionnats autochtones, là, puis c'était pas jojo, là.
C'est ça. Puis il y en a qui profitaient de ces gens-là,
oui,
qui étaient pas
qui
en contact.
Qui communiquaient pas avec eux.
C'est
qui,
ça, ouais. Exactement. Alors voilà pour ce merveilleux monde de la justice. Il est presque 9h, vous êtes dans Dupont le matin. Je rappelle que le mot du jour, c'est rail. Restez sur les rails pour gagner donc ce magnifique prix de 1 600 $ au Fairmont, le manoir Richelieu.
Mais pour gagner, restez sur le rail.
Le rail, c'est ça que j'ai dit? La rail?
Parce que tu veux dire, mettez pas de S.
C'est ça, exact. OK, on vient dans un instant.